Méditation sur le second livre des rois. Introduction. Le second livre des rois fait suite au premier sans aucune interruption. Il peut être utile de remarquer, afin d'éviter au lecteur une conclusion erronée, que cette division en deux livres ne fait pas partie du texte inspiré qui ne formait à l'origine qu'un livre dans le canon hébraïque. Puisque nous touchons en passant à ce sujet, nous ajouterons pour nos lecteurs que l'une des grandes divisions de l'Ancien Testament, les prophètes, comprenait, outre les livres des prophètes proprement dits, sauf Daniel et les Lamentations, tous les livres historiques depuis Josué jusqu'au livre des rois inclusivement, le livre de Ruth excepté. Note 1. L'Ancien Testament comprenait trois grandes divisions, la loi, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, les prophètes, dont nous venons de parler, et enfin les hagiographes ou écrits sacrés, connus aussi sous le titre de psaumes. Luc 24, verset 44. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Et contenant les psaumes, les proverbes, Job, le cantique des cantiques, Ruth, les lamentations, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les deux livres des chroniques. Ce titre seul, les prophètes, nous éclaire sur les auteurs des livres historiques qui nous occupent. Ils étaient dus aux prophètes et portaient leur marque. La soi-disant critique théologique moderne ne doit en rien influer les convictions du chrétien sur ce point. La parole de Dieu seule suffit pour s'expliquer elle-même et nous apporter l'assurance de son contenu. C'est ainsi que les actes de David sont écrits dans les paroles de Samuel le voyant et dans les paroles de Nathan le prophète et dans celles de Gad le voyant. Comparez 1 Chronique 29, verset 29, avec 1 et 2 Samuel. Les actes de Salomon, dans les paroles de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Akija et dans la vision de Gédo le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nébat. Comparez 2 Chroniques 9, verset 29, avec 1 roi. Les actes de Roboam, dans les paroles de Shemaïa le prophète et d'Ido le voyant, dans les registres généalogiques. 2 Chroniques 12, verset 15. Les actes d'Abija, dans les commentaires d'Ido le prophète. 2 Chroniques 13, verset 22. Ceux de Josaphat, dans les paroles de Jéhu, fils d'Anani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. 2 Chroniques 20, verset 34. Les actes d'Ozias ont été écrits par Ésaïe, fils d'Amoz. 2 Chroniques 26, verset 22. Ceux d'Ézéchias, dans la vision d'Ésaïe le prophète. Comparez 2 Chroniques 32, verset 32, avec 2 Rois, chapitre 18 à 20, et Ésaïe, chapitre 36 à 39. Enfin, 2 Rois 24, versets 18 à 25, correspond à Jérémie 52. N'est-il pas remarquable que ce soit précisément les livres des chroniques, si contestés, si attaqués par les rationalistes, qui affirment l'autorité prophétique de nos livres historiques? Or, s'il est vrai que les livres des rois sont l'œuvre des prophètes, et cela nous suffit, puisque la parole de Dieu ne nous en dit pas davantage sur la manière dont ils ont été composés, nous pouvons nous attendre à y trouver non pas le simple récit de faits historiques et une relation parfaitement exacte de ces faits, puisqu'elle est d'origine divine, mais aussi les caractères qui forment la substance de tout écrit prophétique, des exemples des souffrances passées et des gloires futures de Christ. C'est ce que nous ont montré surabondamment les livres de Samuel et le premier livre des rois dans les personnes de David et de Salomon. Mais cela nous explique aussi pourquoi les prophètes eux-mêmes jouent un rôle prépondérant dans ces livres. Ce fait, comme nous l'avons déjà mentionné autre part, nous frappe dès que nous les abordons. Rien que l'activité d'Élie et d'Élisée s'étend sur 19 chapitres des rois, qui en contiennent 47. En matière de préface, il est utile d'ajouter encore ici quelques remarques qui n'ont pas trouvé place dans l'introduction du premier livre des rois. Elle porte sur le caractère des prophètes d'Israël en contraste avec ceux de Juda. En étudiant le premier livre des rois, nous avons pu constater le caractère du ministère d'Élie qui était avant tout un ministère de miracles. Nous aurons l'occasion de le remarquer, plus amplement encore, dans la carrière d'Élisée, le second grand prophète d'Israël. L'activité de ces hommes de Dieu consistait beaucoup plus en actes qu'en paroles. Au contraire, celle des prophètes de Juda en diffère du tout au tout. Ils parlent et ne font que bien rarement un miracle, tel que celui du cadran d'Akaz, Ésaïe 38, verset 8. Ce contraste provient de ce que la profession publique du culte de l'Éternel était encore reconnue en Juda et subsistait malgré les mélanges idolâtres. Il n'était donc pas besoin de miracle pour l'accréditer. Cela nous conduit à répondre à la question souvent posée : pourquoi l'on ne voit plus aujourd'hui de miracle dans la chrétienté ? La raison est la même. Tant qu'elle n'aura pas été vomie de la bouche du Seigneur, les miracles destinés à affermir le cœur des fidèles, aux prises avec l'apostasie, n'auront pas lieu, ni ceux destinés à revendiquer le caractère du vrai Dieu devant les hommes qui l'ont abandonné. Il en était autrement au commencement de l'histoire de l'Église. De nombreux miracles avaient lieu, soit au milieu des Juifs qui avaient rejeté leur Messie, afin de leur prouver la divinité du Sauveur, soit au milieu des nations idolâtres, pour accréditer la prédication du Dieu qui leur était inconnu. Dieu rendait témoignage avec ses serviteurs, par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit-Saint, selon sa propre volonté. Hébreux 2, verset 4. Le catholicisme prétend au miracle, comme dans une mesure aussi le protestantisme de nos jours aux dons miraculeux. De fait, ce que le premier nous présente, ce sont de faux miracles, destinés à aveugler les simples, tandis que le second cherche à s'accréditer, par l'apparence d'une puissance divine, quand déjà l'apostasie se fait reconnaître partout dans son sein. Après l'enlèvement des saints, les miracles du siècle à venir se manifesteront largement, soit parmi les Juifs, soit devant les nations, par le moyen du résidu, comme nous le voyons en Apocalypse 11. L'histoire d'Élisée nous fournira l'occasion de considérer ce sujet en type. Mais, dans le même temps, le pays d'Israël, du peuple apostat sous l'Antichrist, et le monde entier seront le théâtre de miracles, de mensonges opérés par le faux prophète, dernier instrument de Satan, pour séduire les hommes qui habitent sur la terre. Apocalypse 13, versets 13 à 15. Nous nous bornerons à ces quelques remarques préliminaires qui trouveront une ample confirmation dans la partie des Écritures que nous désirons étudier sur le regard du Seigneur et avec le secours de son Saint-Esprit.